VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 8 août 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Mali, la MINUSMA a été de nouveau la cible d'attaque dans le nord du pays.
Au Tchad, manifestants tués hier à N'Djamena, selon l'opposition, qui a appelé à une journée ville morte à l'occasion de l'investiture du président Déby aujourd'hui.
En Syrie, le régime de Bachar al-Assad tente d'empêcher l'encerclement total des quartiers sous son contrôle à Alep.
Ici aux États-Unis, les candidats Trump et Clinton prononceront cette semaine à Détroit des discours sur leurs plans économiques.
Akihito du Japon veut des modifications des lois qui l'obligent à rester empereur jusqu'à la fin de sa vie.
Et ne manquez pas notre journal des Jeux Olympiques ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
La mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a donc été de nouveau la cible d'attaque dans le nord du pays. L'explosion d'une mine dans la région de Kidal a fait un mort et quatre blessés, tandis qu'une seconde n'a pas fait de victimes. Des détails avec Chérubin Dorsil.
Selon un responsable de la MINUSMA, que cite l'agence France-Presse, les victimes sont toutes des Tchadiens, dont un casque bleu. Le communiqué de la mission onusienne précise que le véhicule qui les transportait et qui accompagnait un convoi logistique a sauté sur une mine vers 6h50 du matin à environ 11 km au sud d'Agelrok à Nefis. La seconde explosion survenue environ 2h30 plus tard n'a causé que des dégâts matériels. Là encore, un véhicule de la mission était la cible. La MINUSMA, qui a perdu une trentaine de soldats en un an, a réaffirmé que de tels actes n'auront pas d'effet sur son soutien aux efforts de paix dans le nord du Mali. Mais il n'y a pas que le nord à être visé. Des attentats ont également eu lieu dans le centre et le sud du pays. Fin juin, l'ONU a renforcé le mandat et les effectifs de la MINUSMA, tout en clarifiant sa mission d'assistance au gouvernement de Bamako dans le cadre de ses initiatives pour la paix et la réconciliation au Mali.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno doit être investi aujourd'hui pour un cinquième mandat dans un climat social explosif. Un manifestant est mort hier à N'Djamena et l'opposition continue de qualifier la réélection de Déby de hold-up électoral et a appelé à une journée ville morte sur l'ensemble du territoire.
Un officier de police a dit à l'AFP, sous couvert d'anonymat, qu'un jeune Tchadien a été tué par balle alors qu'il manifestait à N'Djamena à l'appel de l'opposition et venait de déchirer le drapeau du MPS, le parti du président Déby. Le chef de file de l'opposition, Salek Ebzabo, a affirmé que le jeune avait succombé à ses blessures après des tirs à balles réelles des forces de l'ordre pour disperser les manifestants.
Selon l'opposant, un autre jeune a également été touché par une balle au thorax avant d'être conduit à l'hôpital pour être opéré. Cette information n'a pas pu être confirmée de sources indépendantes. La manifestation avait dans un premier temps été dispersée à coups de gaz lacrymogène, mais plusieurs militants très remontés étaient retournés dans la rue pour braver les intimidations policières et la situation a dégénéré, a déclaré M. Kebzabo. Comme la veille où un meeting avait été dispersé par la police anti-émeute, l'opposition avait décidé de maintenir sa marche pacifique malgré l'interdiction décrétée par le pouvoir.
En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a entamé hier des négociations avec d'autres partis pour obtenir la majorité absolue et former un gouvernement dans les grandes villes où il est arrivé en tête. C'est ce que rapporte l'AFP, citant un responsable du parti. L'Alliance et le Congrès national africain au pouvoir doivent discuter avec le parti qui a fini en troisième position au municipal, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema. L'ancien leader de la jeunesse de l'ANC a exclu toute coalition avec cette formation politique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'empereur du Japon, Akihito, s'est dit préoccupé aujourd'hui par sa capacité à continuer de s'acquitter de ses obligations compte tenu de son âge et de la nécessité d'être pleinement investi dans sa mission. Je m'inquiète de la difficulté à remplir mes fonctions en tant que symbole de l'État, a-t-il déclaré dans une rare allocution télévisée, suggérant qu'il attendait des modifications des lois qui l'obligent à rester empereur jusqu'à la fin de sa vie.
Ici, aux États-Unis, la campagne pour la présidentielle de novembre devrait être axée cette semaine sur l'économie. Le candidat républicain, Donald Trump, prononcera un discours sur son plan économique aujourd'hui à Détroit, dans le Michigan, et sa rivale démocrate, Hillary Clinton, prononcera son propre discours sur le même sujet vendredi dans la même ville, qui fait face à de sérieux problèmes financiers. Détroit est la capitale de l'industrie automobile américaine.
Donald Trump met en doute la santé mentale de son adversaire Hillary Clinton. Entre-temps, les deux rivaux poursuivent leur campagne ce lundi. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Prenant la parole samedi dans l'État du New Hampshire, Donald Trump a qualifié Hillary Clinton de personne totalement déséquilibrée. Il s'est aussi moqué du commentaire de la candidate qui avait dit plus tôt qu'elle avait court-circuité en répondant à une question sur sa franchise dans cette affaire de serveur de messagerie privée qu'elle utilisait alors qu'elle dirigeait la diplomatie américaine en 2009 et 2013. La campagne de Clinton a regretté que la seule méthode de Donald Trump de faire face à une semaine désastreuse pour sa campagne est de se lancer dans de nouvelles attaques personnelles absurde. C'était la première visite du magnat de l'immobilier dans le New Hampshire depuis la primaire de février qu'il avait remportée par une grande marge. Mais un sondage la semaine dernière dans cet état du Nord-Est donnait une avance de 15% à Mme Clinton. Un nouveau sondage Washington Post ABC News publié hier dimanche a montré que la démocrate maintenait 8 points d'avance sur Trump à l'échelle nationale, soit 50% contre 42%. À noter cependant que près de 60% de l'électorat reste insatisfait du choix entre ces deux candidats. Hillary Clinton va chercher à renforcer sa position de leader de la cause cette semaine, a commencé par des meetings, aujourd'hui en Floride et à New York.
En Syrie, le régime de Bachar al-Assad tente d'éviter l'encerclement total des quartiers sous son contrôle à Alep. Il vient de subir un grave revers face à une coalition de rebelles et de djihadistes dans cette deuxième ville de Syrie, enjeu majeur du conflit. La coalition, l'armée de la conquête, a annoncé dimanche soir dans un communiqué lancer la bataille pour reprendre la totalité d'Alep.
Au moins 1 million de personnes ont investi les rues d'Istanbul en Turquie hier, dans une manifestation de solidarité avec le président Erdogan, 3 semaines après l'échec d'un coup d'État.
Ce rassemblement de masse, le plus grand jamais vu par certains médias turcs, a marqué la fin de 3 semaines de manifestations nocturnes depuis le putsch du 15 juillet, qui a coûté la vie à plus de 270 personnes, dont 34 organisateurs du coup.
Nous poursuivrons notre chemin dans la solidarité. Nous nous aimerons les uns les autres, pas pour le rang ou le titre, mais pour Allah, a déclaré le président Erdogan sur la place Yenikapi d'Istanbul, protégée par un dispositif sécuritaire fort d'environ 15 000 policiers et de l'équipement anti-aérien. 2 hélicoptères survolaient la foule dont l'effectif n'a pas été estimé officiellement.
La déclaration peut-être la plus importante de la soirée, c'est quand le président turc s'est dit prêt à signer une loi pour rétablir la peine de mort si le Parlement approuve un projet de loi en ce sens. La peine de mort a été abolie en Turquie en 2004 et l'Union européenne a averti que son rétablissement mettrait fin aux chances de rejoindre le bloc de 28 nations.
Presque toute la classe politique était au rendez-vous sur invitation du Parti de la Justice et du Développement. Mais le chef du Parti démocratique populaire pro-kurde n'était pas sur la liste.
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
À présent, le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Idrissa.
Les Jeux Olympiques ont débuté à Rio depuis vendredi et l'Afrique tient enfin sa première médaille.
Oui, elle nous vient de la natation sud-africaine, c'était attendu. Il s'appelle Cameron Van Der Boer. Il s'est classé 2e du 100 mètres brasse cette nuit dans la piscine de Rio, le temps en 58 secondes et 69 centièmes. Autre bon résultat hier en football, le Nigeria poursuit sur sa lancée dans ce tournoi olympique. 2e match et 2e victoire. Cette fois, ce sont les Suédois qui en ont fait les frais. 1-0 pour les hommes de Samson Siasia. Le Nigeria premier de son groupe B devant la Colombie.
La journée de dimanche a vu les représentants africains enchaîner les mauvaises performances.
Quelques exemples. handball, la Tunisie chez les hommes s'est inclinée face à la France, 23 à 25. Chez les dames, en basket, lourde défaite des Lions de la Teranga. Le Sénégal s'incline 56 à 121 face aux Américaines, couronnée lors des 5 dernières éditions et largement favorite du tournoi. Les championnes d'Afrique 2015 sont arrivées à Rio après un voyage harassant de 2 jours et une préparation à minima. Compte rendu de ce match avec l'envoyé spécial de VOA à Rio, Alvaro Andrade.
C'est un grand plaisir pour nous de participer aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas la première fois, mais on souhaitera les Lions de gagner le basketball et les athlètes. Des médailles.
Amis Pape est un Sénégalais qui réside au Brésil et autres collègues sont venus soutenir l'équipe mais voulaient un meilleur résultat. Les Américaines, multiples championnes olympiques en titre, ont entamé les Jeux de Rio en infligeant une correction aux Sénégalaises. 121-56. Lauréat des 5 précédentes Olympiades, le Team USA n'a pas perdu dans cette compétition depuis le demi-finale de l'édition 92, achevé à la 3e place. Le Sénégal a commencé les Jeux Olympiques de Rio avec 7 entrées en matière fracassante. Les champions d'Afrique 2015 sont arrivés à Rio après un voyage récent de 2 jours et une préparation à minima. Face aux Américains et Brittany Greener, les Lions de la Teranga, qui n'ont jamais raté un podium des jeunes Africains depuis 1963, ont très rapidement pris de l'eau dans le premier quart-temps. Elles ont été bousculées par les Américaines et une défense en béton 35-9. Le jeu a été pratiquement décidé, mais l'équipe des États-Unis n'a pas réduit de la vitesse. Sénégal joue contre la Chine le lundi et le Canada mercredi. Ils sont deux très forts équipes et avait une plus grande tradition dans les Jeux olympiques. VOA Afrique, Rio de Janeiro, Alvaro Andrade.
Et on poursuit ce tour d'horizon avec le judo. Roderick Kuku Ndongala, le judoka congolais, a perdu son premier combat d'emblée chez les moins de 66 kilos. Le reportage à Rio de Thierry Kambundi, de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
Aligné chez les moins de 66 kilos, Roderick Kuku a perdu dès son premier combat, battu 10-0 par le Dominicain Matteo Wander. Courte expérience pour ce jeune judoka congolais qui vit en Afrique du Sud et qui en était à ses tout premiers Jeux Olympiques. Toujours dans la même catégorie, le Zambien Punza Mateus n'a pas fait mieux, éliminé à l'étape des 16e de finale par le Slovaque Gombok Adrien. Il ne reste plus que 3 athlètes de la RDC en course. Béatrice Kamushanga, jeune athlète originaire du Nord Kivu qui sera alignée sur 5000 mètres le 16 août prochain. La taekwondoïne Kele Kuroza, porte-étendard de la RDC chez les moins de 49 kilos. Le marathonien Dieu Merci Makorobondo va lui clôturer ses Jeux Olympiques le 21 août courant. De Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En tennis, Nicolas, il ne fait pas bon être tête de série à ces Jeux Olympiques.
Ah, c'est la Berezina Idrissa. Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a été éliminé par Juan Del Potro. Le score 7-6-7-6. Les sœurs Williams ont elles aussi été éliminées. Double championne olympique en titre, Serena et Venus ont été sorties dès le premier tour du double. C'était dimanche à Rio par la paire tchèque Lucie Safarova et Barbora Strýcová. Le score 6-3-6-4. Enfin, même scénario en double pour les frères Murray.
Un mot sur le nageur américain Michael Phelps qui a remporté une 23e médaille olympique, un nouveau record.
Et celle-là, elle est en or, Idrissa. Phelps l'a remporté hier soir avec le relais américain 4 fois 100 mètres. Au total, Phelps a remporté 19 médailles d'or. C'est tout simplement incroyable.
À suivre ce lundi.
Oui, le Gambien Fai Nijé sera sur les tatamis. C'est du judo chez les moins de 73 kilos. La Sénégalaise Hortense Diédiou, elle entrera en compétition en moins de 57 kilos. Pour l'heure, au tableau des médailles, ce sont les États-Unis qui sont en tête devant la Chine, puis l'Australie.
Un dernier mot sur le football, Nicolas. Paul Pogba, lui aussi, rentre dans l'histoire.
Oui, le joueur de la Juventus de Turin devrait officiellement être transféré à Manchester United ce lundi. Le montant, 120 millions d'euros, c'est un record. Pogba devient le joueur le plus cher de l'histoire.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco, John Linden.
Au Kenya, plombé par les taux de change et des coûts d'emprunt en hausse, Kenya Airways a enregistré une perte nette de 230 millions d'euros sur les exercices annuels achevés fin mars 2016. Créé en 1977, Kenya Airways était considéré il y a à peine 10 ans comme une des compagnies aériennes les plus rentables au monde. La dette de Kenya Airways excède aujourd'hui le milliard d'euros. La chaîne hôtelière intercontinentale envisage d'ouvrir des établissements dans 3 nouveaux pays en Afrique, notamment en Algérie, en Éthiopie et en Ouganda. Intercontinental comptait déjà 25 hôtels dans 9 pays africains, dont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Kenya. À l'échelle mondiale, le groupe dispose de 5 000 hôtels et près de 740 000 chambres dans près de 100 pays. 2,6 milliards de dollars, c'est ce que coûte la malnutrition chaque année au Ghana, selon une étude commandée dans le cadre de l'agenda 2063 par l'Union africaine en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Cette étude a été menée pendant 2 ans, de 2013 à 2015.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Commençons par le Tchad, élu dès le premier tour face aux 12 autres candidats en lice. Idriss Déby Itno sera investi aujourd'hui pour un 5e mandat consécutif. Une investiture sur fond de crise politique. Le point avec André Kotmadjingar.
Une investiture jamais connue dans la vie politique au Tchad, car elle est perturbée par une série de manifestations ce week-end initiées par le front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement FONAC pour dire non à l'élection de Déby au premier tour. Et pour contenir ce mouvement d'humeur, le gouvernement a déployé tout un arsenal de guerre, plongeant ainsi les Ndjamenois dans une psychose totale. Empêchés par les enjeux de guerre de suivre l'itinéraire normal de la marche pacifique de leur leader ce samedi, les militants de l'opposition ont organisé des manifestations sectorielles en petit groupe donnant ici de travail aux forces de l'ordre. Manifestation tournée à l'émeute. Témoignage de quelques blessés.
Les forces de l'ordre commencent à tirer sur nous, lancer le gaz par-ci. Et moi, j'ai résisté. Ils m'ont pris. Ils m'ont torturé.
J'ai sauté, j'ai tombé dans l'eau et puis ils ont monté sur mon pied là avec des véhicules. Ça me fait mal jusqu'à là. Mais ce que je veux dire au peuple tchadien, on peut se sacrifier pour la liberté. Même si nous allons mourir, les autres sont là et vont être en liberté.
Un militant grièvement blessé par balle a succombé quelques minutes plus tard, dans un hôpital de la place. Le président du Parti socialiste sans frontières, Dinamo Daram, membre du FONAC, qui a été brièvement interpellé par la police, a déclaré à sa sortie que cette intimidation n'entame en rien la détermination de l'opposition.
Déby a confisqué notre pouvoir par force parce qu'il est armé et nous, pacifiquement, nous réclamons notre victoire. Aujourd'hui, Déby est illégal, illégitime et nous allons continuer à manifester jusqu'à notre dernier souffle.
Sali Kebzabo, coordonnateur du FONAC, insiste sur le caractère légal de la lutte de l'opposition.
Quand ils ont tiré sur nous au meeting, ils n'avaient pas le droit pour le gaz lacrymogène de viser quelqu'un. Ils tirent au sol. Or, ils visaient les individus. Les militants de l'UNDR, du PLD, de Capsure qui étaient en meeting, n'ont pas porté atteinte à l'ordre public. Ils étaient dans le siège d'un parti politique. Et c'est à l'intérieur là qu'on les a gazés. Ça, c'est une action criminelle.
C'est sous cette tension politique que le président Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, s'apprête à être investi. Quelques Tchadiens parlent de leur attente pour ce nouveau mandat.
Ce que le président Idriss Déby Itno doit vraiment faire, c'est de nourrir la population. Il faut que la population soit vraiment nourrie.
On veut seulement la liberté et la cherté de vie. Il faut que ça change un peu. Le retard des paiements des fonctionnaires aussi.
Nos opposants s'arrêtent à donner des idées qui ne font pas à leur place. On a choisi un président pour que le président se mette au travail pour le peuple tchadien.
André Kodmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Congo-Brazzaville, beaucoup de voix continuent de demander un dialogue politique afin d'apaiser des tensions encore palpables dans le pays. Plusieurs opposants, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko, sont toujours détenus, alors que les manifestations des partis qui contestent l'élection de Denis Sassou Nguesso sont interdites. Une partie de la classe politique et la société civile préconisent donc le dialogue, nous dit notre correspondant sur place, Nguela Ngoussou.
Un dialogue politique est-il toujours possible dans le pays? La question se pose partout et plusieurs acteurs politiques y croient dur comme fer. Omer Defundu, du mouvement Sauvons le Congo.
À force de persévérer, nous aurons le dialogue comme l'exige le peuple en ce moment. Et de toutes les façons, la situation de blocage que nous vivons nous conduit à faire quelque chose pour sortir de ce blocage. Faire autrement, c'est continuer encore avec beaucoup de malheurs, beaucoup d'arrestations, beaucoup de tueries, beaucoup d'assassinats, parce que les gens qui ne sont pas contents vont toujours manifester.
Paul-Marie Pouillet, président du Rassemblement des jeunes républicains, lui, pense même que le dialogue devra être la nourriture quotidienne en politique.
Pour aller discuter, nous sommes des Congolais, il n'y a personne qui sera un apatride ici. Nous sommes tous des Congolais, nous avons besoin de discuter, de nous parler pour que nous ayons des solutions à tous nos problèmes, quels qu'ils soient. C'est le cri de cœur que je lance à toute la classe politique, à tous les Congolais, se parler sans jamais se lasser de discuter.
Le Premier ministre Clément Mouamba avait annoncé devant l'Assemblée nationale que le dialogue politique sera au cœur de son action. Mais de quoi sera-t-il question à ce dialogue s'il venait à avoir lieu? Le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, Pierre Ngolo, qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, estime que l'élection présidentielle est terminée et que le vainqueur est connu. Pourquoi un autre dialogue? C'est Clément Mirassa de la coordination du FROCAD qui lui apporte la réponse.
S'il faut aller recompter les voix, on ira recompter, mais les résultats aujourd'hui ne traduisent pas et on traque les opposants. Les réduire au silence, faire en sorte qu'il n'y ait pas de liberté de circuler. Pourquoi? Si tant l'assurance était là dans la victoire et dans la conduite des affaires de l'État.
Pour le coordonnateur de l'IDC, Charles Zachary Bouaou, aucune question ne sera esquivée pendant cette rencontre.
Toute la question de la démocratie congolaise dévoyée nous interpelle. Vous connaissez ce qui s'est passé dans ce pays le 25 octobre, c'est un coup d'État. Ce qui s'est passé le 20 mars, c'est un hold-up électoral. On a beau dire ce que l'on veut, mais tout le monde, en interne comme en international, l'a compris. Voilà pourquoi, dans cette démarche, nous continuons à appeler à un dialogue inclusif pour que, se mettant ensemble, les Congolais puissent travailler à sortir de l'insalubrité public dans laquelle nous baignons.
À exactement une semaine de la célébration de la fête de l'indépendance du pays, de nombreux Congolais continuent à appeler à l'apaisement général. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Fin hier au Togo du Salon international de l'immobilier et de l'habitat togolais, Festimo. Trois jours d'exposition doublée de conférences autour de différentes thématiques en lien avec l'immobilier et l'habitat, notamment le foncier. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
La question foncière est un casse-tête chinois pour les Togolais. Le pays est confronté aux litiges fonciers relatifs à la double vente, à la vente des réserves administratives ou encore aux ventes de terrain par des personnes non habilitées. Le foncier au Togo a été au cœur de la deuxième édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat qui s'est déroulé du 5 au 7 août à Lomé. Alessandre de Souza, président du Festimo.
Aujourd'hui, les litiges au niveau du tribunal de Lomé, l'immobilier représente 80% de ces litiges. C'est par ignorance, la plupart du temps, que des gens vont occuper des réserves de l'État, que des gens se font vendre des terrains qui sont déjà vendus à d'autres, etc. C'est par ignorance. Et donc, lorsque les spécialistes expliquent, on est prudent pour accéder au terrain, pour acheter quelque chose, vous n'allez pas voir votre oncle ou votre tante, vous allez voir un professionnel pour sécuriser le terrain. Donc, quand c'est le cousin qui vous vend, vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise.
L'universitaire John Aglo a eu à animer une conférence sur les origines et causes du problème foncier au Togo.
Nos problèmes ont commencé véritablement, soit avec la colonisation, soit avec les indépendances. C'est-à-dire, on peut considérer qu'avec la colonisation, il y a perturbation de nos modes de vie et donc superposition des législations. Maintenant, après la colonisation, l'indépendance devrait consister en un redressement, en un état des lieux assurant une continuité entre nos valeurs réelles et ce que nous voulons devenir. Malheureusement, il y a eu rupture.
Comment faire pour sécuriser les ventes de terrain dans le pays? La solution résiderait dans la base de données dénommée SlandCol, soutient Jean Yao Evissou, directeur de la structure qui a conçu SlandCol.
SlandCol, c'est un produit qui vient aider les acteurs en foncier à trouver une solution aux problèmes de double vente que nous avons dans le pays. Avant de faire un achat de terrain, nous devons aller chercher les informations pour s'assurer que le monsieur qui veut nous vendre le terrain, c'est le réel propriétaire du terrain. Mais nous n'avons pas ce temps. Donc, SlandCol fait ce travail à la place des potentiels acquéreurs. Nous faisons les enquêtes pour voir si ce n'est pas une réserve de l'État, si c'est une zone déjà approuvée. Donc, à partir de votre téléphone portable, vous envoyez seulement le code d'enregistrement que le propriétaire vendeur doit vous présenter. Si vous envoyez, vous aurez toutes les informations.
Pour que la solution que propose SlandCol soit pérenne, il faut que l'État togolais prenne ses responsabilités, estime le professeur John Aglo.
Je considère que la responsabilité de l'État est engagée, que l'État doit essayer de tenir compte des choses en essayant de faire en sorte que la connaissance prédomine et qu'il y ait articulation entre droit, connaissance et culture. Le magistrat lit le texte de la Constitution sans tenir compte du tout le soubassement culturel qu'il y a derrière cette Constitution et fait croire qu'on est venu redresser un tort. On ne peut pas redresser un tort culturel, on ne peut pas redresser un tort social. On est obligé de faire un travail de refondation. Si ce travail n'est pas fait et qu'on est en train d'appliquer des textes, on a un tort.
Les Togolais sont dans l'expectative d'un nouveau code foncier censé régler définitivement le problème. Le test devrait contenir un certain nombre d'innovations, au rang desquelles la clarification des démarches pour le titre de propriété, la création d'un guichet unique du foncier totalement informatisé et le développement des juridictions spécialisées à Lomé et en zone rurale où les conflits fonciers sont fréquents. Rappelons que les tests en vigueur dans le pays datent de 1906. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
monde. Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.